Bonjour, bonjour, Yves au micro-micro pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui, sur son ton un peu lénifiant, ne dérogera pas cependant à sa tradition et par conséquent vous rappellera ou vous apprendra que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent depuis un certain temps déjà. Ce jour, dans 24 notes secondes, eh bien, nous allons consacrer notre émission à un réalisateur américain dont la filmographie est relativement réduite, une petite douzaine de films, mais comporte quand même quelques titres plutôt solides et célèbres. Une sorte de réalisateur intellectuel qui aura parfois eu maille à partir avec les studios et qui sans doute n'aura pas réalisé la carrière qu'il aurait mérité, le dénommé Arthur Penn, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Il était né le 27 septembre 1922 à Philadelphie, en Pennsylvanie. Et pour la petite histoire, c'est le frère d'Irving Penn qui fut un grand photographe des années 60. Les deux sont élevés par leurs parents qui divorcent et puis il est élevé par sa mère. Il part à la guerre en 1943 et il en revient pour bénéficier d'une loi qui permet justement aux anciens militaires de voir leurs études financées. Et donc il commence des études avant d'arriver dans le milieu de la télévision dans les années 50 en commençant à réaliser des téléfilms. On ne les appelait pas comme ça à l'époque. Et notamment, on va y revenir, un téléfilm inspiré d'un livre de William Gibson intitulé « Miracle en Alabama ». On le voit aussi au théâtre, notamment dans une autre pièce de William Gibson intitulée « Deux sur la balançoire », qui, sauf erreur de ma part, sera ensuite tournée au cinéma, mais pas par Arthur Penn, et dans les rôles principaux duquel on retrouvait à la scène Henry Fonda et Anne Bancroft. Excusez du peu, aller au théâtre pour voir Henry Fonda et Anne Bancroft en vrai, ça devait être un thrill. C'est en 1958 que le dit Arthur Penn tournera son premier film, en l'espèce un western, Le Gaucher, The Left-Handed Gun, donc Le Gaucher du pistolet, puisque le film est consacré, c'est pas le premier, ce n'est pas le dernier, à la vie, soi-disant, de Billy the Kid, qui fut justement un tueur gaucher, c'était une de ses caractéristiques. Billy the Kid, qui dans ce film est interprété par Paul Newman, un film que Arthur Penn tourne à la manière de ses dramatiques télévisées, c'est-à-dire en noir et blanc, avec une petite équipe, des petits moyens, et puis avec un apport dramatique qui faisait fureur à l'époque, qui était celui de l'Actor Studio de Lee Strasberg, donc une méthode d'interprétation bien spécifique qui a ses détracteurs comme ses admirateurs. En tout cas, ce premier long métrage cinéma, c'est aussi les premières démêlées d'Arthur Penn avec les studios, puisque les studios lui retirent les rushs et se chargent entièrement du montage. D'ailleurs, il n'apprendra la sortie du film que par la presse, c'est dire qu'à l'époque, eh bien, on respectait peu le travail de réalisateur. Il faut dire que lui était débutant. On écoute un court extrait, mais c'est quand même une musique pour un film important. Un court extrait de cette bande originale, elle est signée Alexander Courage, Le Gaucher, dans 24 notes secondes.
This is the story, this is the song of a left-handed boy who never meant wrong. He is dangerous and devilish, gentle and wild. Look on him tenderly, speak of him gently. He is death's child. Tone, tone the bell softly, tone. Tone the bell gently, tone, tone the bell tenderly, for the left-handed boy. His name is sorrow, his name is pain. Where has he come from? What is his name? He belongs to all wandering, astray and alone. He belongs to all lonesomeness, shadowed by lonesomeness. Tone the bell, tone.
J'adore ces chansons qui racontent l'histoire, mais en chanson, donc avec les paroles de la chanson, pour ceux qui les ont comprises, mais pour les autres, ce n'est évidemment pas une critique. Un extrait de la bande originale du Gaucher. Une musique signée Alexander Courage. Alors Alexander Courage, il est plus connu pour avoir été l'auteur du fameux thème de la série Star Trek. non, moi, je ne vais pas vous le faire. Hein, ça vous gâcherait la journée. Et pour le reste, il aura été surtout connu pour être l'orchestrateur attitré de Jerry Goldsmith. Le Jerry Goldsmith de 24 notes seconde. On va rester avec Arthur Penn. Donc, ce film, Le Gaucher, il sortit sur les écrans sans même que son réalisateur en soit prévenu. Et ce fut un échec critique et commercial tellement lourd que pendant quelques années, Arthur Penn fut obligé, entre guillemets, de revenir au théâtre. Et il en profita au théâtre pour adapter sur la scène le livre de William Gibson déjà cité tout à l'heure, Miracle en Alabama. Et je ne l'ai pas cité par hasard, c'est qu'il le fit sur la scène avec Anne Bancroft dans le rôle principal. Et ensuite, en 1962, il en fit un film, The Miracle Worker, c'est-à-dire la femme des miracles. Alors, l'histoire de Miracle en Alabama, je vais vous la raconter rapidement, puisque hélas, je n'ai pas d'extrait musical à vous proposer. Pourtant, c'est un chef-d'œuvre absolu. C'est l'histoire d'Hélène Keller, qui est ultra connue aux États-Unis, beaucoup moins en France. Hélène Keller, qui était née sourde, muette et aveugle, ce qui veut dire que ses capacités de communication étaient des plus réduites. Et grâce à une infirmière, gouvernante, on ne sait pas trop, interprétée donc dans le film par Anne Bancroft, cette dame, par des moyens très ingénieux utilisant le toucher, réussit à communiquer avec Hélène Keller, qui réussit à surmonter, j'allais dire, son handicap, ses handicaps, et à devenir une personne célèbre aux États-Unis en faisant des conférences. Bref, un exemple de résilience absolument scotchant. Si jamais vous avez l'occasion, lisez La vie d'Hélène Keller, on en ressort humble. Le film en noir et blanc est une petite merveille. Et là, c'est pas d'extrait musical, donc on va continuer à évoquer la carrière d'Arthur Penn, qui en 1964 se voit éjecté du tournage du Train, un film avec Burt Lancaster qui sera finalement terminé par John Frankenheimer. Et en 1965, tournera un film intitulé Mickey One, qui sera à nouveau un échec commercial, comme quoi il faut s'accrocher quand on est un artiste. Et en 1966, et on va écouter un extrait de la bande originale de ce film, on retrouvera malgré tout Arthur Penn, le survivant, pour la mise en scène de La poursuite impitoyable de Chase, qui réunit dans les rôles principaux une très belle brochette, Marlon Brando, Jane Fonda, Robert Redford, il y a aussi Angie Dickinson et quelques autres, Robert Duvall dans les rôles secondaires, une histoire qui évoque des émeutes raciales, un film assez violent, adapté d'une pièce d'Orton Foote. La musique de ce film, elle est signée John Barry, un choix un peu curieux, mais on va quand même écouter un extrait, The Chase, dans 24 notes secondes. Un extrait de la bande originale de La Poursuite Impitoyable, The Chase. Marlon Brando et Robert Redford sont dans les rôles principaux. Un film extrêmement dur et encore des avanies et framboises pour Arthur Penn, puisque là encore, le montage du film lui sera enlevé par son producteur, qui n'est rien moins que le grand Sam Spiegel. Ma foi, ça n'empêche pas que La Poursuite Impitoyable, c'est quand même un très beau film, très dur, mais très très bien maîtrisé, et que même si il n'en a pas assuré le montage, Arthur Penn y a sa patte, et je dirais cette façon de diriger des acteurs avec... beaucoup de force, et ça on le voit aussi dans Miracle en Alabama, il faut absolument que vous le voyez, Miracle en Alabama. Bref, dans les années 60, Arthur Penn, il est quand même au creux de la vague, et c'est alors que se rapproche de lui Warren Beatty, avec lequel il a tourné Mickey One, qui a un été un échec, deux avec lequel il a eu de très mauvais rapports sur le tournage. Mais Warren Beatty veut tenir le rôle principal d'un film dont personne ne veut. Il l'a déjà proposé à François Truffaut, excusez du peu, qui lui-même a conseillé Jean-Luc Godard, excusez du peu, mais ils ont refusé. Tous les grands réalisateurs hollywoodiens ont refusé. Il faut dire que c'est l'histoire d'un couple de bandits quelque part dans le Texas dans les années 30 qui finissent par être littéralement hachés menus par les balles de la police. Personne n'en veut, mais donc... Warren Beatty dit, bon, ben, finalement, je ne suis pas tellement bien entendu avec Arthur, mais quand même, Arthur, c'est un homme intelligent, intellectuel, il va pouvoir en faire quelque chose, et le film, il s'appelle Bonnie and Clyde. Personne n'y croyait, mais en 1968, eh bien, ça devient le gros succès de l'année. Le rôle principal de Clyde Barrow est bien évidemment tenu par Warren Beatty. Le rôle principal de Bonnie Parker est bien évidemment tenu par Faye Dunaway. Et ces deux-là eh bien, vont constituer une sorte de cristallisation de tout ce que les années 60 peuvent porter de révolte, de violence, avec un apport anarchisant un peu surfait, puisque c'est quand même à la base des bandits qui ont fait des hold-up relativement sanglants. Mais le film auquel personne ne croyait, notamment pas son studio, la Warner, son acteur principal, Warren Beatty, n'y croyait pas trop. Quant à Arthur Penn, on avait engagé faute de mieux. Eh bien, ma foi, c'est ça, les miracles du cinéma. Il n'empêche, cette année-là, il remporta uniquement deux Oscars dans les meilleures actrices, meilleures photographies, bien peu de choses. Mais il fut nominé, par contre, dans pratiquement toutes les catégories. Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur, meilleure actrice, meilleur acteur second rôle, etc., etc. Bref, un sans faute. Alors, le seul sans faute, c'est que je n'ai pas réussi à trouver d'extrait musical pour illustrer un film pareil. Mais on ne pouvait pas s'en passer. Donc, on va écouter ça.
Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Comment il vécu? Comment il est mort? Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? Eh bien, écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle. Et son prénom c'est
Bonnie.
À eux deux, ils forment le gang Barrow. Leur nom
Bonnie Parker
et Clyde Barrow.
Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Moi, lorsque j'ai connu Clyde autrefois, c'était un gars loyal, honnête et droit.
Il faut croire que c'est la société qui m'a définitivement abîmé.
Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur elle et moi?
Prétend que nous tuons de sang-froid.
C'est pas drôle, mais on est bien obligé
de faire taire celui qui se met à gueuler. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Chaque fois qu'un policeman se fait buter,
qu'un garage ou qu'une banque se fait braquer,
pour la police ça ne fait pas de mystère.
C'est signé
Clyde Barrow,
Bonnie Parker, s'installer tranquille dans un meublé.
Dans les trois jours, voilà le tac tac tac.
Des mitraillettes qui reviennent à l'attaque. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Un de ces quatre, nous tomberons ensemble. Moi je m'en fous, c'est pour Bonnie que je tremble.
Quelle importance qu'il me fasse la peau. Moi Bonnie je tremble pour Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
De toute façon il ne pouvait plus s'en sortir.
La seule solution c'était mourir.
Mais plus d'un les a suivis en enfer.
Quand sont morts Barrow et Bonnie Parker. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Ce n'est pas la musique de film, vous l'avez deviné, mais c'est indépassable quand même et ça témoigne du succès rencontré par Bonnie and Clyde, un film d'Arthur Penn tourné en 1967. Ai-je besoin de préciser que c'était Serge Gainsbourg et Brigitte Bardot qui interprétaient, mais le mot est trop faible, qui chantaient les rôles de Bonnie et de Clyde, ou plutôt de Clyde et de Bonnie, dans ce disque dont je ne me souviens plus du titre. La musique de Bonnie and Clyde, quand même, il faut le préciser, elle est destinée de Charles Strouse, mais je ne l'ai pas trouvée, je suis bien désolé. Je voulais aussi préciser que les scénaristes du film, qui sont quand même à l'origine du projet, et qu'on oublie souvent, eh bien, c'était Robert Benton, qui ensuite se fera un nom en tant que réalisateur, notamment de Kramer contre Kramer, et David Newman. Alors, je ne sais pas si c'est le David Newman qui est musicien aussi, issu de la longue famille Alfred Newman et autres, ma foi. Si vous le savez, vous pouvez toujours téléphoner au standard de la radio. Ça fera une petite info en plus. En tout cas, Bonnie and Clyde, ça a été l'occasion pour Arthur Penn de retrouver le succès. C'est ça, la carrière d'artiste. Mais on ne peut pas dire qu'il en profitera vraiment autant que ça, puisque en 1969, il tournera Alice's Restaurant, qui sera là encore un demi-succès. Si, quand même, en 1970, on verra un chef-d'œuvre du néo-western, c'est-à-dire cette façon que dans les années 70, avec la guerre du Vietnam et la contestation de l'ordre établi, pour le faire très très court, on n'a pas le temps dans 24 notes secondes, les réalisateurs s'empareront d'un genre mythique et emblématique du cinéma américain, le western, et bien pour dire tout simplement que tout ce qu'on avait tourné entre les années 30 et 50, c'était faux, que les colons étaient racistes, que les Indiens avaient été massacrés, et Little Big Man, puisque c'est de ça qu'il s'agit, Little Big Man avec Dustin Hoffman dans le rôle principal en 1970, dans lequel on voyait notamment certains massacres d'Indiens, était une superbe fresque, et en même temps très très drôle, assez violente, mais finalement très très drôle, avec un Dustin Hoffman impérial, on le voyait au début du film complètement maquillé, il devait avoir à peu près 130 ans et il racontait des souvenirs dont on se doutait bien qu'ils n'étaient pas tous vrais, mais de temps en temps il y en avait qui étaient vrais. Et je retiens un petit truc juste pour les aficionados qui ont vu Little Big Man: c'est un beau jour pour mourir. Pour les autres, voyez le film et vous verrez de quoi il s'agit. Ensuite, 75, La Fugue, un film avec Gene Hackman, là encore qui fut un succès plutôt mitigé. Et en 1976, on va écouter un extrait de la bande originale de Missouri Briggs. Là encore, une nouvelle incursion d'Arthur Penn dans le western, mais un film qui a été bâti quand même sur ces deux vedettes. Mais vedette était un mot faible dans les années 80 pour Marlon Brando et Jack Nicholson, qui tenaient donc les rôles principaux. L'histoire se passe quelque part à la fin du 19e siècle dans le Montana, l'occasion de magnifiques scènes et de magnifiques paysages. Bon, de toute façon, le Montana, c'est beau, hein, on ne peut pas dire autrement. La musique, elle est signée de John Williams, puisque John Williams, il n'a pas composé que pour Steven Spielberg, en tout cas dans ces années-là, et il a composé des trucs un peu roots, un peu country. On va en écouter un exemple, Missouri Bridge. 24 notes secondes. Ça nous change de la guerre des étoiles, la musique très americana de John Williams pour Misery Briggs, un film d'Arthur Penn tourné en 1976. Marlon Brando et Jack Nicholson étaient dans les rôles principaux, inutile de dire que surtout les deux ensemble, ils en faisaient des tonnes. Mais ma foi, le film n'était pas si mal venu, il y avait une très très belle photographie signée Michael Butler et Arthur Penn réussissait à magnifier... pas très difficile à remarquer, les paysages du Montana, déjà cités, les Badlands déjà évoqués. Arthur Penn, pardon, de cette absence de transition, nous aura quitté le 28 septembre 2010 à Manhattan, New York. Après Misery Briggs, bon, il aura tourné quelques films, à vrai dire, de peu d'intérêt. Et puis sa dernière contribution au cinéma date de 1995, c'est-à-dire presque 15 ans avant son décès. Comme le dit un de ses biographes attitrés, Arthur Penn, c'était un intellectuel et Hollywood n'est surtout pas un endroit pour les intellectuels, quel que fût leur talent. Comprenne qui pourra, et puis en prendra pour son grade qui voudra. On va se quitter en écoutant un extrait de son dernier bon film, il est juste incroyable, moi je l'ai vu à l'époque de la sortie, il faut bien le reconnaître, un film tourné en 1981, En américain, c'est mieux. Ça s'appelait Four Friends, c'est-à-dire quatre amis, l'histoire assez classique de trois garçons amoureux de la même fille. En français, ça s'appelait Georgia, je vais vous dire pourquoi. Il est juste incroyable que les quatre amis en question, eh bien, aucun n'a fait carrière. Je suppose que les noms de Craig Wasson, Jodie Tellen, Jim Metzler et Michael Huddleston vous sont complètement inconnus, hélas. Pourtant, je peux vous assurer que Georgia, puisque c'est le titre du film, en français, eh bien, c'était un petit bijou. Une histoire d'amitié, d'amour, qui se passait quelque part dans les années 60. Une jeune fille un peu exaltée, Georgia bien nommée, qui était destinée, croyait-elle, à une carrière de grande danseuse à l'imitation d'Isadora Duncan, son idole, ma foi. C'est aussi une de mes idoles. La musique du film a été signée d'Elisabeth Swados, mais ce n'est pas la musique du film qu'on va écouter, c'est évidemment Georgia, puisque l'une des chansons du film, eh bien, c'était le fameux Georgia, Georgia on my mind, une musique et une chanson, pardonnez-moi, écrite par Oagi Carmichael et Stuart Gorel. De temps en temps, il faut leur rendre hommage et interpréter été évidemment, alors par plein de gens, mais évidemment dans le film, par Ray Charles, dans 24 notes, seconde.
Georgia, Georgia, the whole day through,
the whole day,
just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, Georgia, Georgia, a song of you,
a song of
comes
you,
as sweet and clear.
J'ai honte, j'ai très honte, pardon Ray. Voilà, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt, si tu veux.
Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I say, Georgia, oh Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.